Et j'espère que t'as pas le vertige.
A feeling of dizziness.
Vertigo.
A swimming in the head.
21h-22h, Vertigo, présenté par Lucien Ducasse.
Infatti la musica è un'entità astratta, noi vogliamo per forza, pubblico vuole per forza trovare nella musica un significato o dei significati.
This is where it gets a bit metaphysical.
This will be my home.
Beautiful blue skies and golden sunshine all along the way.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du tout premier épisode de Vertigo, un vertige musical qui nous fera voyager au travers des époques, des sonorités, de différents styles et une corde, quand même, qu'on tentera de ne pas lâcher pendant une heure et qui nous permettra de trouver des points communs, des liens particuliers qui relient les groupes et les artistes les uns aux autres. Tout cela est proposé par Radio Campus Bordeaux 88.fm et on va passer ce moment ensemble pour divaguer, tout simplement, et profiter de ce qui constitue, à mon humble avis, un bon panel de ce qui s'est fait de meilleur dans le grand monde de la création sonore. On gardera aussi l'esprit bien ouvert, parce que l'on passera parfois de la pop au jazz, en passant par du rock, du plus calme au plus énervé, de la folk, du blues, des musiques latines, asiatiques et j'en passe, sans compter les musiques de films, du cinéma à la télévision, et tout un tas de sonorités qui ne rentrent dans aucune catégorie. En fait, tout a commencé quand je me suis retrouvé devant mes notes, dans le studio, après avoir fait une émission entièrement consacrée aux années 50, une autre sur les 60s, une autre encore sur les années 70, bref, j'ai fini par faire un grand tour, avoir du mal à trouver de nouvelles limites, et à me rendre compte, surtout, avec le recul, qu'il y a toujours quelque chose qui reste dans la musique, les mélodies, les arrangements, les paroles aussi qui se répondent les unes aux autres, parfois à des dizaines d'années d'intervalle, et entre des artistes qu'a priori tout oppose. Nous allons donc partir là où le vertige commence, dans le studio, dans un home studio même, dans ma chambre, en somme, appelez ça comme vous voulez, un endroit plutôt spécial, propice à la création dans un certain confort, et ça, ça n'est pas rien quand on fait de la radio ou de la musique. Pour moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui explique très bien cette idée dans une face B qu'on pouvait difficilement voir venir en 1963, et qui à l'époque a de quoi dénoter du reste de la discographie de son groupe quand on creuse un peu le sens des paroles, notamment. L'artiste en question s'appelle Brian Wilson, son groupe ce sont les Beach Boys, et la chanson In My Room. Un arrangement bien sucré, des vocalises dont on est déjà des habitués, et on passerait presque totalement à côté de la sève d'un chef-d'œuvre comme celui-là si on y prêtait seulement une oreille comme ça sans trop faire gaffe. C'était mon cas d'ailleurs, avant un premier vertige musical, ce moment où j'ai enfin compris ce que cette chanson racontait, véritablement. On est alors en 2016, et c'est une reprise par le jeune Jacob Collier qui sort son premier album à l'époque, un connaisseur de l'espace clos, propice à la création, une seule pièce et des arrangements incroyables, très inspirés entre autres par des musiciennes et des musiciens tels que Brian Wilson, un album, enfin, qu'il appellera comme la chanson « In My Room ».
World where I can go to tell my secrets to in my room, in my room, in my room, in my room, in world, I knock out all my worries and my fears in my room, in my room, in my room, in my room. Do my dreaming and my scheming lie awake and pray. Do my crying and my sighing laugh at yesterday. Now it's dark and I'm alone, but I won't be afraid. In my room,
In My Room de Brian Wilson, repris par Jacob Collier, In His Room, dans sa pièce de prédilection, la petite dépendance de la maison de sa mère dans le nord de Londres. C'est là qu'il a produit l'intégralité de son premier album et des suivants, tout seul, et il n'attendra que 2017, soit un an après la sortie de In My Room, pour recevoir son premier Grammy Award. Il se peut qu'on réécoute des titres de Jacob Collier à l'avenir dans cette émission, parce qu'on a pas mal de choses à raconter à son sujet. Au départ, on le connaissait surtout sur YouTube, depuis le début des années 2010, avec ses réharmonisations, cette tendance à créer des arrangements, des suites d'accords qui viennent habiller, en quelque sorte, des mélodies seules, aussi bien une chanson a cappella qu'un solo de tel ou tel instrument, quand c'est pas quelqu'un qui raconte quelque chose devant un micro. Bref, pour Jacob, tout est source de musique. Ce sont surtout ses reprises qui vont le faire connaître, avant d'être révélé par Quincy Jones himself, qui le prendra sous son aile, aux côtés d'autres jeunes musiciens. Vous imaginez bien qu'à partir de là, tout s'enclenche assez vite, et le résultat s'élargit. Aujourd'hui, on ne compte plus les pointures qui n'en finissent plus d'inonder le musicien de leur admiration. À l'occasion, on écoutera l'une de ces reprises que je préfère dans Jesse Volume 2, une reprise d'un classique intemporel d'Henry Mancini que vous avez probablement entendu chanter par la douce voix d'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, Moon River. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. The same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River. Thank you. Audrey Hepburn chante Moon River en octobre 1961 dans Breakfast at Tiffany's avec de très jolies paroles écrites par Johnny Mercer sur une musique d'Henry Mancini. Évidemment, l'année suivante, il repartira avec les Grammy Awards du titre et de la chanson de l'année, l'Oscar de la meilleure musique originale, et je passe sur la quantité incroyable de reprises qui ont été faites par la suite. On y reviendra une autre fois en écoutant notamment les 8 minutes d'a cappella de Jacob Collier, sorti presque 60 ans plus tard. Ce soir, on s'arrête plutôt sur Mancini lui-même, un monument de la composition et de l'arrangement qu'il serait impossible de résumer à un ou deux titres et qui a bien évidemment bouleversé le paysage musical et pas seulement au cinéma. Ce fils d'immigré italien qui a grandi près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, écrira dans sa jeunesse pour Benny Goodman avant d'intégrer la Juilliard School of Music et se lancer dès 1946 dans une carrière d'arrangeur pour l'orchestre de Glenn Miller, puis le département musique d'Universal qui lui permettra de composer pour une quantité de films et de suivre un certain Blake Edwards, pour qui il composera énormément, à commencer par ce thème que vous avez sûrement déjà entendu quelque part. On est en septembre 1958 et c'est la première fois qu'on crée un personnage de détective privé qui ne soit pas spécialement inspiré d'une histoire déjà existante, dans un roman par exemple, juste pour une série qui va durer 3 saisons. Voici Peter Gunn. Voilà pour le thème incontournable de Peter Gunn, avec ce solo de saxophone ténor et cette façon si particulière de le faire résonner qu'on retrouvera assez souvent dans des styles similaires par la suite et qui me fait penser à un autre générique de série télé, bien plus tard, tellement tard que le simple terme de série télé n'est pas tout à fait exact dans la mesure où il s'agit là d'une des premières séries originales Netflix. BoJack Horseman est une série animée absolument incroyable créée par Raphaël Bob Waksberg que je vous conseille absolument. Mais nous, on est plutôt là pour écouter son générique, composé par un certain Patrick Carney et son oncle Ralph Carney, décédé depuis. Patrick Carney, vous le connaissez sûrement pour être la moitié du duo The Black Keys. Nous, on part en direction des collines d'Hollywood pour retrouver un solo exceptionnel de saxophone qui me rappelle beaucoup celui de Peter Gunn. Voici la version intégrale du thème de BoJack Horseman. est le personnage de BoJack Horseman, ancienne star d'une sitcom des années 90 qui nous offre un point de vue acide et déprimant du show business hollywoodien, il vit dans une villa posée au milieu d'une parodie de Beverly Hills, une ambiance très californienne donc, qui me fait penser à un autre titre en apparence assez éloigné, extrait de l'album Court & Spark par Joni Mitchell. Il faut dire qu'elle connaît plutôt bien la région, la vraie cette fois, après son passage remarqué par les collines de Laurel Canyon, berceau du son californien de la fin des années 60, début 70. Là, on est le 17 janvier 1974, on vient de retourner le vinyle pour écouter la deuxième face de Court & Spark, et le premier titre, c'est Car on a Hill, une voiture sur la colline. Une chanson qui va encore faire résonner le saxophone, avec notamment des incursions d'effets qui sont là pour nous faire imaginer le passage incessant des voitures sur la colline. Mais surtout, la plus belle coïncidence, c'est cette personne qu'attend Johnny. Je vous invite à jeter un coup d'œil aux paroles, parce qu'il pourrait très bien s'agir de BoJack Horseman lui-même, Car on a Hill. Said he'd be over 3 hours ago. I've been waiting for his car on the hill. He makes friends easy, he's not like me. I watch for judgment anxiously. Now where in the city can that boy be? Waiting for a car. Climbing, climbing, climbing the hill. Thank you. Vous écoutez Radio Campus Bordeaux 88.1 FM et on se laisse aller d'un titre à l'autre dans Vertigo, un vertige musical que vous pourrez retrouver dès maintenant en podcast sur la page SoundCloud de Radio Campus Bordeaux. Et pour en savoir plus sur notre émission et suivre nos actualités, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook notamment. Les pages s'appellent Vertigo. Après Joni Mitchell, c'est le saxophone de Clarence Clemons que l'on vient d'entendre. Clarence Clemons, alias Big Man, connu pour avoir officié au sein du E Street Band, le groupe qui accompagne Bruce Springsteen depuis le début de sa carrière musicale chez Columbia et même avant. Pour autant, Springsteen s'en séparera momentanément à la fin des années 80 pour voir ailleurs, avant une réunion en studio en 1995 et un retour remarqué sur scène en 1999. Immortalisé en vidéo, l'un des nombreux concerts à guichet fermé au Madison Square Garden de New York nous permettra de découvrir un Springsteen et son E Street Band au sommet de leur art, avec des versions de leurs plus beaux titres réarrangés pour l'occasion. Celui qui sort du lot, pour moi, ce soir-là, c'est Clarence Clemons. Acclamé par la foule pendant 10th Avenue Freeze Out, il produit aussi peut-être son plus beau solo de tous les temps sur Jungle Land, et il intervient même en introduction et en conclusion d'une version étirée sur plus de 11 minutes de l'immense The River.
They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd ride out of that valley down to where the fields were green. We go down to the river, head into the river we die. Yeah, down to the river we cry. When I got Mary pregnant, yeah, man, was all she wrote. For my 19th birthday, got a union card and a wedding coat. Well, we went down to the courthouse, and the judge put it on to me. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down. Head into the river we dive, head down to the reef, here we ride. For the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. When all those things that seem so important,
the living is shredded in the air. I just act like I don't remember. Maybe it's like she don't care. But I remember this wreck in my brother's car. Her body chained and wet down at the reservoir. At night on those banks I lie awake, pull her close just to feel each breath she take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Tell me, is a dream a lie? If it don't come true, or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. It sends me down to the river to my head down to the river, my baby.
On continue notre balade au bord de la rivière et on se rend compte que c'est celle du Mississippi, avec cette grande route et plein de camions qui passent, l'occasion de retrouver le chauffeur de Up on Cripple Creek qui traverse les États-Unis et qui veut rejoindre le golfe du Mexique en longeant la rivière avant de retrouver sa femme Bessie. La chanson est écrite par le guitariste Robbie Robertson et finira dans le deuxième album de son groupe. Et quel groupe ? The Band, rien que ça, peut-être ma formation musicale préférée parmi absolument tous les groupes qui existent. On aura donc l'occasion d'en reparler, bien sûr. Pour l'instant, je vous emmène avec moi dans le public de ce qui restera un concert d'adieu mémorable, la dernière fois que The Band se réunit au complet avec plein d'invités de marque, histoire de fêter leur carrière, ainsi que Thanksgiving 1976. Tout ça est capté en son et en vidéo par un jeune Martin Scorsese, histoire que tout le monde puisse profiter de titres tels que Up on Cripple Creek.
Oh,
The Band, ils sont comme beaucoup d'autres très attachés à leur patrimoine musical, à leurs origines sonores, à commencer par toute une culture folk, country et bluegrass du sud des États-Unis, mais ils y intègrent aussi des éléments de la pop culture qui ont marqué leur enfance et leur adolescence, comme la mention à l'instant de Spike Jones, non pas le réalisateur des superbes Being John Malkovich, Adaptation ou Her, non là on parle de Spike Jones, une sorte de chansonnier incontournable aux US dans les années 40 et 50, rendu célèbre par ses nombreuses parodies des tubes de l'époque, et c'est là que je vais essayer de vous donner ce fameux vertige propre à l'émission de manière à vous emmener à la chanson suivante sans perdre le fil. Dans les années 40, l'orchestre de Spike Jones est composé d'autres musiciens attachés à la comédie tels que George Rock, Red Ingle, Dudless Weaver ou encore Mikey Katz, choriste et joueur de clarinette. Mikey Katz, il est aussi connu pour être le père de l'acteur et metteur en scène Joel Grey, qui est lui-même le père d'une autre actrice, Jennifer Grey. Jennifer Grey, vous l'avez peut-être vu dans La folle journée de Ferris Bueller, mais surtout aux côtés de Patrick Swayze dans Dirty Dancing. Dirty Dancing, c'est un véritable jukebox rempli de bonne musique, et je m'en vais vous le prouver immédiatement. Voilà comment on passe d'une chanson de The Band à Love Man par le très grand Otis Redding.
Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. That's what they call me, I'm a love man. Big old love man. 6 feet, 1 weight, 210. A long hair, pretty fast skin. I'm long-legged and I'm a outsider. My, baby, I wanna take you on. Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man.
Otis Redding avec Love Man, qui donnera son nom à son tout dernier album, un album posthume, hélas, qui sortira en juin 1969, soit près de 2 ans après sa mort accidentelle, à 26 ans, lors du crash de l'avion qui devait l'amener dans la ville de Madison, dans le Wisconsin. 3 jours avant, il avait terminé l'enregistrement de Sitting on the Dock of the Bay, le chef-d'œuvre qui lui sera le plus associé pour les décennies suivantes, et 4 mois avant ça, beaucoup ont noté sa performance exceptionnelle au Monterey Pop Festival. Dans les années 60, on parle souvent du festival de Woodstock comme point culminant d'une génération, la réunion musicale de toute la contre-culture du moment, et on a trop tendance à oublier l'autre événement, un peu plus confidentiel, mais tout aussi, si ce n'est plus qualitatif musicalement, en août 1967, à Monterey, en Californie. On reviendra une autre fois, un peu plus en détail, sur ce festival initié par John Phillips des Mamas and the Papas, mais on retiendra donc la superbe prestation d'Otis Redding, de Janis Joplin aussi, ou de Jimi Hendrix, et le grand final de ce week-end, le dimanche 18 juin 1967, on le doit aux Mamas and the Papas, bien sûr, mais c'est surtout Scott McKenzie qui les rejoint sur scène pour l'avant-dernier titre de la soirée, et ce qui était un simple titre servant de promotion pour l'événement devient alors quasiment un hymne représentatif de toute cette ambiance californienne sur le point de disparaître, ou au moins de connaître un changement radical. Voici San Francisco. Parmi les grands absents du festival pop de Monterey, le hasard veut d'ailleurs qu'on les ait évoqués au tout début de cette émission, ce sont les Beach Boys, qui non seulement étaient prévus en tête d'affiche du samedi soir, mais dont le quasi-leader, à l'époque, Brian Wilson, faisait carrément partie du comité d'organisation du festival. Les raisons de cette absence sont assez obscures, mais la presse critiquera surtout leur possible crainte de se retrouver confrontés à la jeunesse contestataire, éloignée de leur rock de surfeur coincé. Pour moi, c'est totalement à côté de la plaque, car ça fait alors un an qu'est sorti leur chef-d'œuvre Pet Sounds, une œuvre incontournable qui a radicalement bouleversé le paysage musical et dont on reparlera plus en détail une autre fois. En tout cas, ça aurait pu être assez dingue de voir les Beach Boys se pointer devant tout ce beau monde et nous sortir leur version la plus explosive de Wouldn't It Be Nice.
Together, wouldn't it be nice if we could? though it seems the more we talk about it, it only makes it worse to live.
Wouldn't It Be Nice, extrait de l'album Pet Sounds des Beach Boys, un album qui naîtra presque intégralement de l'esprit génial de Brian Wilson. À l'époque, il n'en peut plus du schéma classique de la pop music et il veut apporter une vraie direction orchestrale aux chansons du groupe, avec un son qui se rapprocherait du Wall of Sound de Phil Spector et avec la technique et la qualité sonore du dernier Rubber Soul par les Beatles. Il ira tellement loin dans son idée que c'est lui-même qui sera la source d'inspiration de la suite des Beatles. On sait notamment que Paul McCartney considère, à juste titre, que God Only Knows est peut-être la plus belle chanson de tous les temps, et tout le travail d'orchestration de Sgt Pepper, sorti en 67, reposera sur ce qui était initié au préalable par Pet Sounds. Avant ça, dans l'album Revolver, McCartney s'inspire déjà du travail impeccable sur les harmonies, façon Brian Wilson, lorsqu'il compose Here, There and Everywhere, et pour cause, il s'est rendu à une session d'écoute en privé du nouveau Pet Sounds aux côtés de John Lennon. Ça n'a pas dû les laisser indifférents, au contraire, et ça a donné cette session d'enregistrement du 14 juin pour les Beatles, de laquelle naîtra, entre autres, Here, There and Everywhere.
To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the
Voici comment les arrangements si particuliers de Brian Wilson se retrouvent dans un classique des Beatles, ou pour se limiter là aussi à une personne, dans la tête de Paul McCartney. Car un peu comme chez les Beach Boys, même si chaque Beatle a joué un rôle crucial dans la composition selon l'époque, peut-être même plus que chez leurs voisins américains, McCartney sert de premier chef d'orchestre, avant même George Martin quand il est présent, pour ce qui est de façonner un son à part entière qui restera pour des décennies à venir. On garde la douceur et l'acoustique pour s'envoler vers la fin de cette émission. Nous sommes le 12 septembre 2005 et McCartney nous propose Chaos and Creation in the Backyard, dans lequel il garde son habitude de jouer tous les instruments, tous sauf un, sur mon titre préféré, car il est quand même assez difficile de maîtriser le doudouk arménien, cette flûte que l'on entend dans la dernière partie de Jenny Wren. Car c'est bien le Wren, ce tout petit oiseau anglais qui sifflera à la fin de ce premier numéro introductif de Vertigo. J'espère que vous avez apprécié ce petit vertige musical. Je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver au prochain épisode. En attendant, comme promis, voici Paul McCartney avec Jenny Wren. À bientôt.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. She saw poverty breaking up a home, wounded warriors took a song away. Sing when this broken world